Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Vendredi 5 août, bonjour et bienvenue à vous sur les ondes de Cube Radio. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette dernière de la semaine en vue d'un week-end qui risque d'être très chaud. Évidemment, la communauté montréalaise et québécoise est encore sous le choc devant ce qui s'est passé cette semaine. On a plus de nouvelles et de détails entourant les meurtres gratuits et crapuleux, on va le dire, qui ont eu lieu cette semaine et qui ont secoué la métropole de nuit. Au courant des derniers jours, faisant 3 morts, 3 innocentes personnes, des hommes qui se rendaient au travail ou allaient tout simplement voir leur famille lorsqu'un assaillant les a abattus à bout portant avec une arme à feu. Il s'appelle Abdullah Sheikh. Il a été abattu hier par le SPVM dans le stationnement du motel Pierre sur Marcel Lorrain à Ville-Saint-Laurent. Et c'est vrai que les services de police ont agi très rapidement. Il faut le reconnaître. En moins de 48 heures, l'assaillant a été appréhendé et abattu. Mais il en demeure pas moins qu'on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions à propos du fait que cet individu, connu pour les problèmes mentaux très importants, connu pour son potentiel de dangerosité, connu pour sa capacité à faire mal à autrui, y a été libéré récemment. Il y a de ces décisions qu'on comprend tout simplement pas. Quand je lis ce matin dans le Journal de Montréal que malgré le fait qu'il niait totalement sa maladie, refusait sa médication, la commission qui a finalement recommandé sa libération, elle dit, et je cite, « En l'absence de cadre ou de suivi, cette formation est convaincue de la probabilité que monsieur s'engage dans un comportement criminel entraînant des préjudices physiques ou psychologiques. Il est également clair pour la formation que le préjudice qui pourrait en découler puisse être grave. » Il continue pour dire « La commission conclut que l'accusé représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public. » mais estime que ce risque est adéquatement contrôlé si la libération de l'accusé est assujettie à un suivi et à un encadrement approprié. Comme diraient les Anglos, guess what? 3 meurtres. C'est ça que ça a donné comme résultat. Et on le savait, c'est ça qui est le plus choquant. Comment a-t-on pu le libérer alors? Comment le système a pu l'échapper quand tous les voyants le concernant étaient au rouge? Comment on va expliquer aux 3 familles endeuillées, aux 2 enfants maintenant orphelins de leur père, la 2e victime qui avait 48 ans et qui allait travailler dans un hôpital pour santé mentale, Albert Prévost, que ce gars-là, on savait qu'il était dangereux puis on n'a rien fait. On l'a laissé faire. Ça va être difficile à expliquer, c'est difficile à accepter et incompréhensible. C'est incompréhensible. Toujours dans le spectre des décisions incompréhensibles, il y a cette décision d'un juge qui nous a collectivement choqués hier, et on en parlait avec Félix Séguin. C'est la décision entourant la sentence d'un Gatinois de 43 ans, Joshua Chou. Le champion, il a battu, il a menacé, il a étranglé sa conjointe, mais le juge a décidé qu'il méritait quand même une absolution conditionnelle pour lui permettre de pas avoir de casier judiciaire, pour qu'il puisse continuer de voyager. Pauvre petit pit, il a besoin de voyager de temps en temps. Et là, c'est là où je me dis qu'il y a un problème. En fait, il y a 2 problèmes importants. Le premier, c'est tout simplement la question du bon sens. Comment un juge a pu considérer que ce n'est pas assez grave, que les conséquences vécues par la victime n'étaient pas assez importantes, que les agressions et la violence conjugale, alors que l'on compte nos féminicides de manière régulière, c'était pardonnable. Le deuxième problème, puis je vous le dis là, je sais que c'est pas les mêmes genres d'accusations. Je sais qu'on n'est pas dans de l'agression sexuelle, mais c'est pas grave. On est quand même dans les décisions juridiques ici, de juges. c'est que je fais un parallèle avec la décision du juge Poliquin entourant les agressions sexuelles de Simon Hull, où on a jugé que les agressions sexuelles qu'il a reconnues, qu'il a reconnu avoir fait même une autre victime, ben ça l'empêchait pas ça devait pas l'empêcher de voyager puis de continuer sa carrière, comme si sa carrière était plus importante que ce que les victimes ont pu vivre. Là, c'est vraiment un symptôme important que notre système de justice a un problème. Heureusement que dans les deux cas, le DPCP a décidé de porter en appel ses décisions. On dit que le juge aurait erré, puis j'ai envie de répondre « no shit, Sherlock, il a erré. » Agresseur sexuel, le gars a étranglé sa femme, puis c'est pas grave, peut voyager. Dans la série de bonnes nouvelles, et je suis encore sarcastique, le ministère des Transports et le ministre des Transports ont annoncé hier que le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine va connaître une importante réfection qui va mener à la fermeture de 3 voies sur 6. Ça va se passer de novembre 2020 à novembre 2025. C'est long, novembre 2025. Puis c'est ça, s'il n'y a pas de délai supplémentaire qu'on va nous annoncer autour de 2025. Et je vous l'annonce, ça va être l'enfer pour ceux qui prennent le tunnel au quotidien. Ils vont devoir se trouver une option. Puis là, on parle de 120 000 voitures qui empruntent le tunnel au quotidien. C'est 120 000 voitures qui vont se retrouver ailleurs dans d'autres traversées. Comment on va coordonner ça? Comment on va s'assurer que ce soit le plus fluide possible? Comment on va s'assurer que les détours soient clairs? Ben là, il va falloir que les parties prenantes puissent s'asseoir ensemble. Là, puis il va pas falloir attendre décembre 2022 pour se dire « Ah ben peut-être qu'on aurait dû peut-être s'asseoir, puis on va peut-être s'asseoir en janvier, puis faire un comité sur la fluidité et la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud. On est au mois d'août, vous pouvez vous asseoir maintenant, s'il vous plaît? » Ça, c'est une demande que tous les automobilistes vous font. Merci.
Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Martine Biron a décidé de se lancer en politique, puis ça a lancé tout le débat sur est-ce que les journalistes peuvent sauter dans l'arène politique. David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, qu'en penses-tu, Martine Biron et d'autres journalistes qui ont décidé de sauter dans l'arène, ont-ils raison de le faire et est-ce que ça nourrit un certain cynisme?
Je pense que oui, ça nourrit un certain cynisme. Ça pose des questions, on t'en a parlé hier sur le site du Journal de Montréal, dans une de tes chroniques, parce que Martine Biron a quand même eu accès à des informations privilégiées. Hein, en étant journaliste, elle va parler un peu à tous les partis, elle va essayer d'aller chercher la nouvelle. On sait aussi qu'au mois de juin, elle a fait le bilan du parti, hein, en disant un peu ben, dans les 4 dernières années et dans la dernière session parlementaire. Les bons coups, les mauvais coups, comment ça s'est passé. Donc, elle fait le bilan en juin, puis un mois et demi à peine après, elle se présente pour la CAQ. Donc, c'est sûr que ça agace et que ça pose des questions. Et probablement qu'au mois de juin, selon ce qu'elle a dit, du moins, elle était déjà au courant qu'elle allait se joindre à la CAQ. Donc, probablement qu'elle aurait dû prendre ses distances déjà à ce moment-là. Là, je pense que ça aurait été la moindre des choses, là.
À quel moment, ça devrait être quoi cette zone tampon-là entre le moment où on quitte le monde journalistique puis le moment où on décide de se lancer en politique? Parce que c'est pas la première. Là, on se rappelle Pierre Duchesne, Christine Saint-Pierre, Bernard Drainville. Il y en a beaucoup de journalistes qui ont décidé de traverser finalement la clôture et rejoindre la force du mal, diront certains.
Ben, je pense que dès que la conversation, pas nécessairement qu'elle est entamée avec le parti politique, mais dès que la décision est prise, oui, je vais me présenter avec votre parti, je pense que le journaliste en question ou la journaliste en question devrait prendre ses distances avec son employeur.
C'est drôlement dit à ton employeur et en passant, je pense démissionner parce que je vais aller en politique, mais là, donne-moi donc une petite zone tampon là, parce que je suis pas prête à l'annoncer et je suis pas prête à lâcher ma job.
Ben, c'est ça, même, puis plus j'y pense, plus j'ai l'impression que la personne devrait quitter son emploi à ce moment-là. Ça reste un saut dans le vide d'aller en politique. On comprend que les personnes veulent quand même garder leur emploi le plus longtemps possible pour avoir un revenu. Ça, je le conçois tout à fait. Mais en même temps, j'imagine que c'est le prix à payer. Et je pense que ça nous rappelle aussi que les journalistes ne sont pas nécessairement n'incarnent pas l'objectivité incarnée, si on veut. Ils ont tous leur biais, ce qui est correct aussi. Je pense qu'ils sont capables de faire un travail honorable malgré leur biais. Je pense que ça rappelle aussi que nos journalistes, c'est intéressant aussi quand ils ont différents biais, justement, puis que ça vient, tous ces biais-là viennent un peu se contredire en quelque sorte, puis qu'on puisse lire des journalistes de différents horizons, puis c'est ça qui nous nourrit, je pense, en tant que citoyens, là.
Oui, bien évidemment, ce sont des citoyens qui aussi ont droit de vote et qui doivent avoir des idées politiques, bien qu'on leur demande dans le cadre de leur travail d'être neutre et de faire leur travail avec impartialité. Mais moi, je me pose toujours la question, devrait-on avoir des règles pour les journalistes qui souhaitent rejoindre la politique? Puis là, il y a toutes sortes de journalistes. Il y a ceux qui font les faits divers, puis il y a ceux qui analysent la politique au quotidien puis qui recueillent des confidences des différents caucus. Est-ce que les règles devraient changer entre l'un et les autres?
Bien, c'est sûr que si on est proche des milieux journalistiques, surtout dans le cas de Martine Biron, qui faisait dans l'analyse, qui allait chercher des nouvelles sur le terrain quand même, ça m'agace un peu plus que, par exemple, un Bernard Drainville qui, dans les dernières années, était connu pour ses prises de position. T'sais, on n'est pas tous tombés en bas de notre chaise quand on a appris qu'il se joignait avec la CAQ. On le savait déjà qu'il y avait certaines accointances idéologiques avec le parti. Donc moi, ça me choquait un peu moins que justement de Martine Biron, que là, j'ai l'impression que son impartialité était un peu plus importante dans le cadre de son travail.
C'est intéressant de voir, on n'a pas encore vu le point de presse de Martine Biron, puis c'est sûr que des questions en ce sens vont lui être posées. Comment va-t-elle répondre et quelle est la trame finalement de la prise de décision? Ça va être déterminant pour la lecture que l'on va faire de cette candidature. Parlons de notre deuxième sujet, David, et on va poursuivre le débat qu'on a commencé hier sur le cégep français. Et j'ai cru comprendre qu'en bonne enseignante, tu as fait des devoirs hier?
Ben oui, Yasmine, tu m'as pris au dépourvu hier en me lançant sur ce sujet.
Ça m'arrive, hein?
Ben oui, ben j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, non, ben là, je veux me reprendre le lendemain, je veux me reprendre aujourd'hui. Donc oui, je pense que le cégep, on parlait hier de la loi 101 au cégep, parce qu'on devrait l'appliquer. Je pense que l'un des arguments importants, c'est que c'est l'effet anglicisant des cégeps. Hein. Quand on étudie au cégep en anglais, on augmente nos chances d'étudier en anglais à McGill ou Concordia. Hein. On s'aligne pour 85% de chances d'étudier en anglais à McGill ou Concordia. Et on multiplie par 12 les chances de travailler en anglais. Donc vraiment, il y a un effet anglicisant d'aller étudier au cégep en anglais. On sait que c'est un moment charnière dans la vie. On entre dans la vie adulte à ce moment-là. Et ça dirige vraiment le reste de notre vie, j'ai l'impression.
Alors, le cégep serait anglicisant et ça mènerait à l'université anglicisante. C'est ce que je comprends?
Oui, tout à fait. Les données de Statistique Canada sont claires à ce propos-là. Et donc, oui.
Est-ce qu'on change de langue maternelle?
Non, bien sûr que non. Mais la langue n'est pas juste un outil de communication. Hein. C'est-à-dire, il y a tout un écosystème. Puis au Québec, on souhaite pas. L'objectif au Québec, malgré ce qu'on entend, c'est pas juste que les gens soient capables de parler français, mais c'est qu'ils parlent français dans la vie tous les jours, au travail. C'est ça l'essence de la loi 101, c'est que l'écosystème linguistique se fasse en français. Peu importe si on est capable de parler français, on veut que les gens parlent dans le concret en français.
Et qu'est-ce que tu réponds à cette statistique-là qui dit que 6% des élèves qui ont le français comme langue maternelle uniquement, 6% vont au cégep en anglais. Et parallèlement, 11% des élèves qui ont l'anglais comme langue maternelle vont au cégep en français.
Oui, bien ça, évidemment, là, si on prend c'est des statistiques qui sont nationales, alors qu'on sait bien que les cégeps anglophones sont principalement à Montréal. Parce que quand on regarde les statistiques à Montréal, c'est beaucoup plus inquiétant. Puis on regarde les cégeps anglophones, le deux tiers des étudiants dans les cégeps anglophones sont francophones et allophones. Donc, c'est même plus des cégeps anglophones. En fait, la majorité, c'est des étudiants allophones, si je peux dire. Donc,
des étudiants allophones qui ont fait toute leur primaire et le secondaire en français.
Oui,
comme les étudiants francophones.
Oui, tout à fait. Puis quand ils arrivent à cette époque charnière du cégep, là, vraiment entre l'adolescence et la vie adulte, si on veut.
Comment on détermine que ça s'est anglicisé parce qu'on est parti dans une université anglophone?
Oui, ben on fait le saut, on se dit, ben là, ma vie d'étudiant, je vais la faire en tant qu'anglophone, ma vie de travailleur, je vais la faire dans le milieu anglophone. Donc, oui, je vais être capable de parler français, mais...
Mais David, juste pour te dire, j'ai fait mes études universitaires en anglais. Je les ai fait à Concordia. Je ne me suis jamais considérée comme une personne qui s'est anglicisée. Et selon les statistiques que tu nous présentes aujourd'hui... Ben, le choix de faire mon université en anglais, ça serait mon choix de choisir une autre culture, une culture anglophone, et de m'angliciser. Je suis sûre qu'il y a pas mal d'étudiants universitaires, Paul Saint-Pierre Plamondon pour ne pas le nommer, qui ne partagent pas cet avis.
Yasmine, je vais te lancer des fleurs, tu vas être contente. Je pense pas que tu représentes la norme de l'étudiant à McGill ou Concordia.
L'étudiant francophone, oui. L'étudiant francophone qui a fait son primaire et secondaire, je te garantis que oui. Moi, je les ai vus, je les ai côtoyés, j'en ai comme amis. Des personnes qui ont fait leurs études en français, qui ont décidé d'aller à McGill ou à Concordia pour toutes sortes de raisons et qui se sont pas anglicisés, qui ne se sont pas considérés comme des anglophones ou ne plus être des francophones. Bien au contraire, c'était d'aller chercher des études dans le programme de notre choix qui est offert dans une université anglophone et rien de plus, rien de moins.
Yasmine, on discute depuis le début de l'été sur plein de sujets. Souvent, tu vas t'identifier à la culture québécoise, au peuple québécois. Je serais curieux de savoir si je vais à Concordia et je dis « Est-ce que vous êtes québécois? » Rares sont ceux qui me diraient oui. J'en suis convaincu, on me dirait « Je suis Montréalais, je suis Canadien. » Rares seraient ceux qui me diraient qu'ils sont québécois. Vraiment, culturellement, ils vont devenir...
Mais la loi 101 ne va pas régler ça. La loi 101 au cégep ne va pas régler ça. La loi 101 à l'université ne va pas régler la réponse à la question que tu proposes. Pourquoi on n'est pas dans promouvoir le cégep en français, promouvoir nos institutions d'enseignement postsecondaire en français, plutôt que de enlever des droits, enlever des possibilités, enlever des choix à des étudiants qui peuvent prendre des décisions rendues à leur âge, sans nécessairement s'avaler tout rond, avaler toute leur primaire puis le secondaire. Puis une autre question, c'est que si 2 ans de cégep fait en sorte que tu deviennes anglophone puis que tu es plus francophone, il y a des sérieuses questions à se poser sur la qualité du français que l'on enseigne au primaire et au secondaire. Ça se peut pas, je peux pas croire.
Mais tout ça, l'un n'empêche pas l'autre. Hein? Et souvent, on entend ça, on doit davantage valoriser la culture québécoise. C'est ce que beaucoup de cégeps anglophones ont essayé de dire. Ben oui, attendez pas qu'il y ait une loi là-dessus, faites-le tout de suite. Ça, je vais le dire, je vais le répéter. Puis d'ailleurs, on enlève la loi 101 au cégep, si on avait à l'appliquer, ça enlèverait aucun droit. Hein. C'est pas un droit d'étudier au cégep.
Oui, actuellement, un élève qui est francophone, qui a son DES d'une institution secondaire francophone, a le droit d'appliquer dans un cégep en anglais, a le droit d'aller faire des études universitaires en anglais. Alors, si on applique la loi 101, on lui retire cette possibilité-là, donc on lui retire un droit.
Oui, mais c'est pas un droit qui est assuré par les chartes des droits et libertés.
Ah ben là, si on parle de droits et libertés, des chartes de droits et libertés, on part sur un autre sujet parce que... puis je pense pas que t'aimerais ce sujet-là, David, si on retourne sur la laïcité.
ça serait un autre dossier. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si vous voulez vous angliciser, ben allez dans un cégep privé. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. C'est juste que l'État, à mon sens, dans un État où la langue officielle est le français, je vois pas pourquoi on choisirait d'angliciser la population. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. Déjà qu'actuellement, 49% des diplômes préuniversitaires à Montréal se font en anglais. Bientôt, on va passer la barre du 50%, alors que 17% des Montréalais sont anglophones. Donc, il y a vraiment une surreprésentante des diplômés préuniversitaires à Montréal anglophone. Et oui, ça agace, puis on voit la tendance à la hausse. Imaginons où est-ce que ça monte à 60, à 70%, parce qu'on voit une tendance à quel moment ça va s'arrêter.
C'est David, inquiétant. Les chiffres sont têtus, malheureusement. On ne voit pas de tendance. C'était 5,6% en 2015-2016. La proportion des élèves qui ont le français comme langue maternelle qui vont au cégep en anglais, c'est 6% en 2021. C'est 4,5% de tous les cégepiens du Québec qui les francophones qui vont au cégep en anglais. C'est 18% la proportion des cégepiens qui sont inscrits dans une institution anglophone, alors qu'en 2015, c'était 17%. Il n'y en a pas d'augmentation. On a beau regarder les chiffres, les analyser, on peut pas leur faire dire ce qu'ils disent pas.
Mais oui, ça, on regarde les chiffres de Statistique Canada sont clairs. On peut les sortir, mais là, on fait une guerre de chiffres actuellement. Là. J'imagine nos auditeurs un peu perdus. Mais oui, à mon sens, c'est ça. Puis ce qu'on ne parle pas assez aussi, c'est l'élitisme des cégeps anglais, étant donné qu'ils reçoivent davantage de demandes. Et ça, c'est un dossier important. Par exemple, Dawson va accepter très, très peu d'étudiants en difficulté. Et les cégeps francophones... beaucoup plus. Donc oui, ils font pas leur juste part dans justement cette sélection-là d'étudiants en difficulté qui sont de plus en plus nombreux dans nos classes. Puis ça, c'est vraiment fâchant parce que ça ajoute du travail pour nos enseignants au cégep francophone, pardon.
David Santarossa, toujours un plaisir de débattre avec toi. On se retrouve lundi.
Certainement, on se parle lundi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel.
La chronique Argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
C'est drôle, on dit en promo que ma mission est de nuancer les propos, mais il n'y a rien à nuancer. La fermeture du tunnel Louis H. Lafontaine, ça va être un bordel, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Olivier, comment on peut nuancer ça?
Ben, sincèrement, c'est pas moi qui va nuancer ça non plus, Yasmine. d'autant plus que moi, j'habite dans la portion est de l'île de Montréal.
Oh, tu vas te réveiller plus tôt?
Eh, mon Dieu, ouais. Ben, si j'avais à traverser le pont. Là, heureusement, j'ai pas à traverser le pont très, très souvent. Mais, hey, c'est tout un bordel. Et partons du début, Yasmine. Montréal, là, on l'oublie des fois, là, mais c'est une île, Montréal. Alors, une île, il n'y a pas 3000 façons d'accéder à l'île. Ça prend des ponts, ça prend des ponts-tunnels. Si tu t'en fermes un, des ponts-tunnels, bien évidemment, ça va refouler sur les autres infrastructures. J'entendais hier, donc on disait ça va être terrible pour les gens de la Rive-Sud. Bien sûr, ça va être terrible. Ça va être terrible aussi pour les gens de l'est de l'île. Déjà, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Alors, imagine, là on enlève après ça. Donc, une des seules façons donc d'accéder à la rive sud, de sortir ou d'entrer de l'île. Et il faut pas oublier également, Yasmine, le pont-tunnel, là, c'est l'extension de la 20, l'autoroute 20.
Ben oui, c'est ce qui relie la 20 à, finalement, l'île de Montréal quand on continue, puis la 20 devient la 25.
C'est ça. Puis, je veux dire, l'autoroute 20, c'est l'autoroute la plus utilisée au Québec, là, sincèrement. Là. C'est l'axe entre Québec et Montréal. C'est majeur, sincèrement, à partir du moment où on dit que ça va durer jusqu'en 2025, puis qu'on va couper quoi, 3 voies ou à peu près, là, qu'il y aura une voie pour sortir, puis 2 voies pour entrer. Je parlais avec un intervenant hier, puis il se posait la question, y a-t-il un pilote dans l'avion du côté du MTQ? Parce que ça fait à peu près quoi, 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, alors sur ce chantier-là. Alors là, on a vu que là, c'était plus grave qu'on pensait, puis 900 millions de dollars de plus. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, Yasmine, c'est que ça va toucher beaucoup l'industrie du camionnage. Il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, de camionnage qui sont situées sur la rive sud de Montréal, donc notamment donc à Boucherville, qui doivent entrer absolument par le pont tunnel. Le port de Montréal est situé juste à côté du pont tunnel.
Hey, ça, c'est un autre... C'est comme si on avait besoin de ça pour l'industrie du camionnage, pour les entreprises, pour la hausse des coûts. Wow, ça tombe à un mauvais moment.
Ça tombe à un mauvais moment. Et actuellement, sache, parce que j'ai parlé hier avec Marc Cadieux de l'Association du camionnage, puis il m'expliquait ça, puis j'avais parlé à des camionneurs également lors des dernières semaines. Actuellement, toute cette portion là, du pont-tunnel, là, habituellement, la livraison, ça prenait une heure. Et là, actuellement, on est plutôt dans deux heures, voire trois heures seulement pour la livraison. Alors, c'est deux fois, trois fois plus de temps que ça prend si on utilise le pont-tunnel. Et là, on dit aux camionneurs, ben essayez de partir plus tôt le matin ou aller plus tard le soir, donc éviter les périodes de pointe. Mais la période de pointe, moi, j'ai l'impression, Yasmine, qu'il n'y aura plus de période de pointe. Il va toujours y avoir des bouchons de circulation tout autour du pont-tunnel. Alors, imagine la logistique terrible pour ces entreprises de camionnage. Et là, l'autre aspect, puis là, il faut le dire, c'est que l'impact de ces coûts de transport, qui va les payer?
Contribuables.
Voilà. C'est les contribuables, c'est les clients. Parce que là, on m'expliquait du côté de l'Association du camionnage que les coûts de transport lors des dernières années ont plus que doublé. Ça se fait dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, premièrement. Eux, tout leur coûte plus cher, évidemment. On parlait notamment, tu sais, des aspects qu'on connaît pas. Le prix des pneus a beaucoup augmenté également pour les entreprises de camionnage. La chaîne d'approvisionnement qui est brisée. Là, il y a toutes sortes de chauffeurs maintenant, imagine-toi, qui veulent plus aller à Montréal.
Parce qu'ils peuvent se permettre de faire ces conditions-là à cause de la pénurie de main-d'œuvre.
C'est ça, exactement. Étant donné qu'il manque de chauffeurs, moi, je m'excuse, je n'irai pas à Montréal perdre 2-3 heures sur la 25 ou ailleurs, parce que là, on parle juste de la 25, mais on sait qu'à Montréal, c'est vraiment... Il y a des cônes oranges partout. Sincèrement, si on compare à n'importe quelle ville dans le monde, tu es allé en Europe dernièrement, je crois, je suis allé en Europe, il n'y a pas ça nulle part.
Non, c'est assez fou. L'autre question que je me disais, c'est avec ce tunnel-là qui va être fermé 3 voies sur 6, le tronçon de Notre-Dame jusqu'à monter pour prendre Papineau et prendre le pont Jacques-Cartier, on va voir plus de camions là aussi? Est-ce qu'on a les Absolument. Infrastructures pour accueillir autant de camions qui vont aller vers le centre-ville pour prendre d'autres ponts?
Absolument. On pense à ça tout de suite. C'est 120 000, on disait hier, c'est 120 000 véhicules qui utilisent le pont-tunnel à chaque jour. Et là-dessus, à peu près quoi, 13 à 14 % même jusqu'à 15 % ce sont des camions.
Donc, ils vont se retrouver ailleurs, ces camions-là. Ils vont pas juste disparaître.
Non, c'est ça. Pas un coup de baguette magique, finalement, qui va les faire disparaître. Alors, tu as tout à fait raison. Déjà, Notre-Dame, je me rappelle, on avait fait la réflexion de Notre-Dame, je crois, il y a à peu près quoi, 2-3 ans.
À peu près.
Déjà,
oui.
il y a déjà beaucoup de poids lourds sur cette portion-là, donc, de Notre-Dame. Alors, ce sont des camions qui vont passer par Jacques-Cartier. Puis, Jacques-Cartier, l'autre aspect, c'est qu'on arrive directement, pas au centre-ville, mais presque. En tout cas, je suis sûr du côté du MTQ, on a pensé à tout ça. Là, on a dit on va mettre en place notamment donc du transport en commun, on va favoriser le transport en commun. Mais franchement, le transport en commun de la rive sud jusqu'à Montréal, déjà, est extrêmement déficient, là.
Non, mais c'est surtout cette région-là, la région de Boucherville, la sortie de Montarville, il n'y en a pas beaucoup de transports en commun. On est loin du métro de Longueuil. Ça va être très difficile. Puis l'autobus qui doit faire le détour parce que lui, il va pas prendre le tunnel, ben il va te déposer ailleurs, pas de l'autre bord du tunnel, là.
Oui, exactement. Alors, le transport en commun, sincèrement, est déficient dans l'est de la ville. On l'a dit plusieurs fois. Là, il y a le REM de l'est qui est sur la glace, on comprend pas trop, là. Tout ce coin-là, tu as tout à fait raison, la Rive-Sud, c'est vraiment déficient. Alors, on dit, on va améliorer l'offre, ce qu'on a. Si on n'a rien, sincèrement, là. Alors, c'est tout un problème. Et l'autre aspect, je parlais avec l'industrie du camionnage hier, toujours, et c'est parce qu'un jour, Yasmine, là, va falloir refaire la métropolitaine. Elle est...
juste à y penser, j'ai comme la chair de poule, comme un rire nerveux qui me secoue.
On va en rire parce que sinon, c'est un peu choquant. Alors, tu sais, on dit on veut une ville internationale, on veut que Montréal se démarque, est une plaque tournante économique. J'ai des amis qui sont venus dernièrement à Montréal. Ils disaient, Montréal, c'est fantastique, c'est l'art de vivre, c'est une ville vraiment où on peut fêter, on mange bien, tout ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à vos routes? Qu'est-ce que vous avez fait à vos routes? Alors, internationalement, maintenant, c'est un peu difficile et encore plus difficile aussi, donc, pour les camionneurs de venir à Montréal et de faire la livraison des marchandises.
On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Olivier, il y a TikTok aussi qui nous occupe, là, quelque chose de plus heureux. Oui. Disons que le premier ministre veut garder son compte TikTok, là. Il ne veut pas l'abandonner.
Il veut pas l'abandonner, il est comme ça, il le tient. Là, c'est comme avec un enfant, Yasmine, là, tu veux y enlever? Non, je veux le garder, mon compte TikTok. Ouais, et j'ai vérifié ce matin, d'ailleurs, le premier ministre publie, pas beaucoup, je te dirais, modérément, on va dire ça comme ça, quelques petites vidéos, ses chroniques littéraires. Tu sais que souvent, il propose des livres québécois. Alors ça se retrouve notamment donc, sur TikTok, différentes publications. Je l'ai vu notamment dernièrement aussi avec Mariana Mazza. Tu sais que c'est un format très jeune, là. Alors c'est très court et puis c'est punché, généralement, ce qu'on met sur TikTok. Pour le premier ministre, j'imagine que ça lui permet d'entrer en contact davantage avec un électorat qui est plus jeune. Tu as été conseillère politique pour la CAQ. Je pense pas que ce soit son bassin, généralement, d'électorat.
D'habitude, c'est pas vraiment l'électorat qu'il vise, mais tu sais, Monsieur Legault, aujourd'hui, il en reste plus beaucoup des électorats qu'il a pas touchés. Oui. Alors, il se prête au jeu.
Voilà, c'est peut-être le dernier électorat qui peut aller séduire. Alors, donc c'est ça. Donc il décide, il a dit, moi, je veux conserver mon compte TikTok. Le problème, c'est que c'est le Parlement britannique qui a des craintes à propos de TikTok. C'est détenu par une entreprise qui s'appelle ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Et il faut dire que les employés de ByteDance avaient été accusés de consulter les données des clients américains. Et souvent, tu sais qu'il y a toujours des soupçons que la Chine donc nous espionne les pays occidentaux, donc il y a des craintes. Il y a la commission aussi d'accès à l'information qui avait des craintes par rapport à ça. Alors hier, mon collègue Francis Alain a questionné le bureau du premier ministre et on a dit qu'il n'y a pas vraiment d'informations sensibles qui se retrouvent sur le compte TikTok. Alors on a dit le premier ministre va garder ce compte-là. Puis du côté de l'opposition, ben ils ont tous des comptes. Alors on peut pas vraiment lui dire que c'est pas une bonne idée. Dominique Anglade a un compte, le Parti québécois en a un, et aussi donc Québec solidaire. Mais évidemment, ça pose toutes sortes de questions à propos de la protection de la vie privée. Parce que lorsqu'on entre des données, parce que pour avoir un compte TikTok, Yasmine, faut mettre quand même des données. Alors, c'est là que ça pourrait devenir plus sensible là, et que ces données-là pourraient être partagées là, et surveillées par le gouvernement chinois.
Ben, c'est une préoccupation que partage l'ensemble de la planète. Je pense l'ensemble des parlements et des parlementaires qui se disent, est-ce que TikTok est juste un instrument du régime communiste chinois pour avoir accès à des données? Je ne sais pas si on va être capable de faire face à TikTok qui connaît une très grande popularité, notamment auprès des jeunes. Très rapidement, Olivier, j'aimerais aussi t'entendre sur la compagnie Biron qui avait comme mandat de faire les tests COVID à l'aéroport, un mandat qui lui a été donné par le gouvernement.
Le prix Citron, Yasmine, aujourd'hui, le prix Citron va à la compagnie Biron, le laboratoire Biron, qui, on le sait, t'a probablement pris l'avion durant la pandémie, peut-être. Bon, moi aussi. Tu te rappelles lorsqu'on devait sortir du Canada, du Québec, notamment pour aller aux États-Unis. Moi, j'avais dit aller aux États-Unis. Le fameux test PCR.
Oui.
On n'en parle plus. Ben, fallait le faire. Mais tu te rappelles que ça coûtait quand même toute une beurrée.
Ça coûtait une beurrée déjà dans les laboratoires privés hors aéroport. Mais si on avait le malheur d'avoir oublié de le faire et qu'il fallait faire à l'aéroport, ben là, il faut sortir des gros sous.
Il fallait sortir des gros sous parce qu'il y avait le monopole. Il n'y avait pas un autre laboratoire là, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Alors, sincèrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, il y a eu 147 000 clients de Biron. Évidemment, on lui demandait toutes sortes d'informations personnelles. Ça rejoint donc le sujet qu'on vient de parler. Et en utilisant après ça donc le courriel des 147 000 clients, on a dit, on a accès à leur information, on va leur envoyer de la publicité. Donc, ils ont utilisé une situation où ils étaient monopoles, pas une situation où le client décidait, pour après ça leur envoyer toutes sortes de publicités. Ils viennent tout juste d'être pincés, là, donc, par la Commission d'accès au Canada. Et ils ont dit qu'ils ont effacé les 147 000 courriels. Mais si vous êtes passé à l'aéroport durant la pandémie et même après la pandémie, parce que Biron faisait les tests à l'entrée,
oui,
jusqu'à tout récemment, là, soit dit en passant, là.
Alors, oui, oui, ils avaient même un étage, au premier étage, ils avaient eu des installations du côté américain là, pour pouvoir recueillir les voyageurs qui venaient d'arriver au Canada.
Oui, alors là, ils ont dit quand même, Yasmine, on a effacé les courriels, mais pendant plusieurs mois, ils ont envoyé de la publicité là, directement à des gens qui n'en avaient pas demandé. Parce que souvent, tu sais, si mettons tu fais un achat chez un fabricant, on te pose la question, est-ce que vous voulez recevoir de la publicité? Alors là, évidemment, c'était pas le cas. On a utilisé une situation avantageuse dans laquelle on était un monopole et évidemment, donc ils ont été pincés par le commissariat.
Et il y a des règlements pour ça. Biron aurait dû les connaître et les respecter. On s'attend à ça lorsqu'on a un contrat du gouvernement. Olivier Bourque, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine et on se retrouve lundi.
Absolument. Et pas trop d'entraves, j'espère.
J'espère.
Salut.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Pendant que vous écoutez un balado en 5 minutes, 1400 personnes naissent sur Terre. Des bactéries mangent 1500 kg de métal sur l'épave du Titanic. La sonde Voyager parcourt 5000 km dans l'espace. En 5 minutes, on explique tout. La série Balado en 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube.radio et sur toutes les plateformes d'écoute Balado.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
On en parle peut-être moins, mais ce n'est pas moins important et moins préoccupant. On parle de ces feux de forêt et des risques de feux de forêt en Europe, notamment dans le sud de la France. Hier, Météo France a émis une vigilance risque très élevé feux de forêt pour les massifs de l'Estérel et du Tanneron. On a avec nous Alexis Guilly, journaliste indépendant en France. Bonjour, Monsieur Guilly.
Bonjour.
Donc, il fait quelle température présentement en France? Vous êtes dans le sud-est de la France, en direct à Nice. On s'attend à quoi pour la journée?
Bien, vous le voyez, aujourd'hui, les gens essaient de se rafraîchir comme ils le peuvent. Le mercure atteint aujourd'hui 40 degrés, c'est considérable. Vous parliez il y a un instant des massifs de l'Estérel et de Fréjus, c'est juste derrière moi ici. Et c'est là-bas qu'aujourd'hui et durant tout le week-end, eh bien, les personnes ont l'interdiction de se rendre à cause d'un risque majeur au feu de forêt.
Est-ce qu'on voit un état d'alerte auprès des vacanciers, auprès des infrastructures? Comment on sent l'ambiance dans le coin de où vous êtes?
Alors aujourd'hui, on sent qu'on se rapproche de cette ligne rouge. Nous ne l'avons pas encore franchie. Vous le voyez ici, eh bien, il y a quelques cabines de douche qui permettent par exemple aux vacanciers de se rafraîchir. Il y a pour l'instant très peu de restrictions d'eau pour les vacanciers, car vous le savez, ici, ce mois d'août est précieux pour les Européens. Mais en attendant, ce qui est important à mentionner, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant, la nouvelle vient de tomber. Plus de 100 communes en France sont coupées d'eau. C'est considérable. Ça veut dire qu'au moins des dizaines de milliers d'habitants n'ont plus d'eau potable qui arrive chez eux. Et donc, on comprend tous les problèmes qui peuvent s'en suivre.
Mais là, quand on parle de 100 communes qui sont privées d'eau alors qu'il y a des températures qui avoisinent les 40 degrés Celsius, ce n'est vraiment pas le bon moment de manquer d'eau.
Et oui, c'est un problème qui est effectivement grandissant, déjà parce que ces communes qui manquaient déjà d'eau, eh bien en général, ce sont les communes qui sont les plus touchées par ces phénomènes de réchauffement climatique. On parle par exemple de 45 degrés qui ont été enregistrés dans les communes du sud-ouest de la France. Vous savez, il y avait ces énormes feux de forêt en Gironde dans les semaines qui précédaient cette entrevue, et ça fait partie des endroits qui ont dû être évacués d'abord à cause des feux de forêt, et puis maintenant à cause du manque d'eau qui sévit dans ces villes-là.
Eh bien, vous le dites, il y a 3 semaines, c'était la Gironde qui goûtait. Est-ce que la vie a repris et disons que les vacanciers, les habitants ont pu reprendre leur demeure, et est-ce que on est en train de s'en sortir de ces évacuations qui ont secoué la région il y a 3 semaines?
Alors, vous savez, ce sud-ouest de la France, ce côté-là, c'est une région extrêmement touristique. C'est un patrimoine pour la dune du Pilat, donc en Gironde, qui est enregistré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors évidemment, tous les yeux étaient rivés sur cette région qui a été l'endroit où il y a eu beaucoup, beaucoup de feux de forêt. Aujourd'hui, la majorité des habitants, 98% pour être exact, ont pu rejoindre leurs habitants. précipitations. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà un grand pas en avant. Aujourd'hui, les feux sont maîtrisés. Pour autant, attention, car il y a une vigilance très forte qui est de mise, notamment à cause d'incendies criminels tout le long de la côte entre l'ouest et l'est de la France. Eh bien, il y a de nombreux feux qui sont en cours et qui sont régulièrement déclarés. D'abord des feux criminels, mais également des feux qui sont naturels. Naturels pourquoi ? Car il y a par exemple des bouteilles qui sont jetées, qui font une loupe, qui allument ces feux et qui, avec la sécheresse que vous voyez ici, eh bien, sont en train de causer de ces problèmes-là. On retrouve chaque année en été, mais qui cette année sont encore plus présents que d'habitude.
On a l'impression d'être vraiment avec vous puis de vivre ce chaos lié au feu de forêt, à entendre les bruits des sirènes derrière vous. Je me posais la question, la région de la Gironde et la grande région autour de Bordeaux sont en train de se relever. Est-ce qu'il y a d'autres menaces de feu de forêt ailleurs dans le pays qu'actuellement dans votre région?
Oui, alors il y en a deux. Bien sûr, l'Hérault, qui est une région entre ici le Var et la Gironde. Donc pour situer ça, vous avez à l'est de la France le Var, c'est où je me trouve actuellement, la région de Nice. À côté de ça, à l'ouest, à côté de l'Espagne, il y a l'Hérault. Et à côté encore, il y a la Gironde. Donc ces trois régions-là sont concernées par ces feux de forêt. C'est normal car c'est le sud de la France. Et c'est aussi là que tous les vacanciers viennent profiter par exemple des plages ici ou alors du soleil de la Côte d'Azur. Vous savez, c'est une région qui est réputée pour ça. Mais ça pose là aussi un problème car plus il y a de touristes, plus il y a de mégots de cigarettes par exemple, plus il y a de déchets dans la nature, de personnes qui peuvent jeter des bouteilles et ce genre de choses qui, là encore, provoquent des incendies et qui bien sûr accroît donc ce risque d'incendie. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'aussi, par exemple en Gironde, vous l'avez vu, ces endroits extrêmement touristiques, comme le camping des Flots Bleus, qui est un endroit iconique, qui est passé dans de nombreux films et qui est ici quelque chose de très très réputé, eh bien, a pris les flammes, il a été complètement détruit. On avait des images qui nous parvenaient il y a quelques semaines qui étaient terribles, avec des campings rasés par les flammes. Aujourd'hui, cette menace pèse, non seulement sur Nice, mais sur toutes les communes avoisinantes, et on devrait avoir dans les jours ou dans les semaines qui viennent d'autres incendies, volontaires ou non, qui risquent de se déclarer. Alors ici, vous parlez des pompiers, les sirènes sont en alerte permanente et de nombreux pompiers ont été dépêchés d'autres régions françaises pour venir en soutien ici dans le sud.
Monsieur Guilly, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir rapporté ces nouvelles. On vous souhaite bonne chance et on souhaite à tous les Français du sud de la France bonne chance, aux sapeurs-pompiers également, en espérant avoir de bonnes nouvelles prochainement.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio. Culture et société.
On est vendredi et c'est ce qui nous rappelle que la fin de semaine, c'est le temps de... Bon, il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire, notamment culturelles. Marika Simard pour nous en parler. Bonjour Marika.
Bonjour Yasmine.
Alors, il y a déjà ce festival Cigale. C'est peut-être pas pour ce week-end, mais il est là.
Oui, ben en fait, il y a le Festival Cigale, c'est la première édition de ce festival qui s'amène à la plage de la baie de Beauport. Ça se déroule donc du côté de Québec et c'est le premier week-end de cette première édition. Il s'agit d'un festival qui va proposer un mélange de bouffe, un mélange de musique électropop, rien de nouveau, tu me diras. Mais là où je trouve que le festival se différencie, Yasmine, c'est dans son emplacement. On va se retrouver donc sur la plage de la baie de Beauport. On va se retrouver les deux pieds dans le sable face au fleuve Saint-Laurent et à l'île d'Orléans. Alors, j'imagine que le spectacle va être grandiose, splendide aussi. Les deux têtes d'affiche seront nul autre que Kylo et Cilly & Color. On a un extrait. Love seems so good to me. I've driven down the highway one, just hoping that I'd see you soon. Cause I'm coming home. Donc, les laissez-passer journaliers qui vont débuter autour de 80 $, il reste des laissez-passer si vous êtes curieux d'aller assister à ce festival. Ça se tient toujours du côté de Québec, samedi et dimanche.
Alors, sinon, le week-end va être quand même chargé, même du côté de Québec, pas juste à l'île Sonic de Montréal.
Non, c'est ça, c'est vrai. Il y a l'île Sonic également qui offre une musique pop électro. Ça se déroule également sur, quant à eux, sur 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Mais si vous êtes dans une toute autre ambiance, du côté de Montréal, il y a la Grande Fabrique. Du côté du quartier Hochelaga-Maisonneuve, ça se déroule les 6 et 7 août. Et vraiment, là, on va animer le quartier avec la Grande Fabrique. Et c'est le cas de le dire, là, parce qu'il va y avoir 150 artisans, des designers, des créateurs locaux, des commerçants qui vont se réunir donc sur la rue Sainte-Catherine. Et je trouve que c'est une belle occasion, oui, de faire des trouvailles, de découvrir des petits objets, mais aussi d'aller à la rencontre de ces artisans, de ces artistes qu'on n'a pas rencontrés, qu'on n'a pas vus depuis près de 2 ans. Alors voilà, l'invitation est lancée du côté du quartier Hochelaga. Sinon, il y a le trio à Bruno qui s'amène au ministère. C'est Julien, Sarah Maud et Audrey-Louise. On les connaît, on les a tellement aimés, hein, nos 3 candidats de Star Academy. Ils vont nous offrir donc un spectacle inédit du côté du ministère. Ça va se dérouler ce dimanche. Et le spectacle va se dérouler en 2 temps. Donc, il y a un spectacle qui se déroule à 15h en après-midi et un autre à 20h. Ça sera aussi offert en webdiffusion pour une fraction du prix. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Si vous n'êtes pas du côté de Montréal, c'est quand même possible d'assister au spectacle.
Un spectacle hybride.
Oui, un spectacle hybride qui se déroule, c'est ça. Puis en plus, il y a deux heures disponibles. Donc, si vous ne pouvez pas vous présenter à 20h, il y a toujours des places disponibles à 15h. Et le concert s'intitule Le Trio à Bruno. Et il y a quelques jours, il y a Sarah Maud et Audrey-Louise, oui, qui étaient à mon micro pour discuter de ce spectacle. Et je vous propose d'écouter un extrait.
Bruno Fortier, c'est notre professeur de chant, dans le fond, à tous les trois, qu'on a rencontré depuis plusieurs années, en tout cas, pour,
ouais, je pense, à des pour moments différents, là, quand même.
À des moments différents, c'est ça. Puis Bruno Fortier, ça, je pense, ça a été vraiment notre point commun, là, à tous les trois, tout au long de l'aventure. Fait que là, on s'appelait les Bruno Girls en backstage, tu sais, puis c'est revenu souvent. Puis en fait, il nous a proposé, là, à notre sortie Star Academy, de produire notre spectacle, puis qu'on puisse se retrouver les trois autour d'un spectacle, dans le fond.
Ça risque d'être très intéressant, ça.
Oui, surtout que ces 3 académiciens qu'on a tellement aimés, ils se sont rendus très, très loin. On a beaucoup jasé d'eux, donc ils vont se retrouver sur scène. Et ce qu'ils me disaient également, c'est qu'ils veulent vraiment... je pense que c'est ça, hein, quand on sort d'une grosse machine comme Star Academy, on veut aussi se réapproprier notre art, on veut trouver notre identité. Alors, je pense qu'à travers ces spectacles-là, ils vont pouvoir réussir ce petit tour de force.
Et aujourd'hui, il y a la grande sortie du film Arlette, mettant en vedette Marie-Pierre Morin et réalisé par Marie-Lou Wolfe.
Oui, et scénarisé par Marie Vien. Et évidemment, bon, le film a fait grand bruit. On en parle depuis des semaines, j'aurais même envie de dire depuis des mois, surtout en raison du choix de l'actrice principale, hein, tu l'as bien dit, Marie-Pierre Morin. Donc, Arlette, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a brillamment réussi, je dirais, dans le domaine de la mode, mais elle va se faire approcher pour tenir le ministère de la culture, alors qu'elle n'a vraiment jamais flirté avec la politique. Et Yasmine, t'en sais quelque chose, hein? En politique, parfois, ce monde est un peu dur, est un peu cru. Et là, elle va rapidement apprendre que ce ne sont pas les femmes qui mènent en politique. Elle va donc entrer dans ce harem qui est la sphère politique. On va rapidement la remettre à sa place. Elle va vraiment être confrontée à des humiliations répétées, à des propos misogynes, autant de la part des hommes que des femmes. Donc, c'est un film qui relate, oui, les coulisses de la politique, mais surtout qui nous oblige à poser un regard sur la façon dont on traite les femmes ou l'image omniprésente de la femme et de l'importance de cette image de la femme et surtout de la femme qui réussit, hein, qui est souvent bafouée. Donc, un joli film présenté donc et réalisé par Marie-Lou Wolfe et ça débarque en salle aujourd'hui. On a un extrait de la bande-annonce.
Là, c'est la cerise sur le sundae. Qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à nommer une starlette à la culture?
Qu'est-ce que vous apporterez de nouveau à la culture?
Les 100 millions que le ministre des Finances a promis aux artistes lors des dernières élections.
Coulisse. Le ministre des Finances, il a décidé de vous donner une leçon. C'est un désastre.
Beware of my husband, Arlette.
Tu m'énerves!
He's a pitbull.
Notre caucus, il se divise en deux.
Ça fait vraiment pas sérieux.
Celui de Giroir, puis de l'autre bord, celui du premier ministre.
La politique est un jeu dangereux.
Êtes-vous prête à mettre votre tête sur le bio?
Le 21e siècle sera dirigé par des femmes.
C'est très pour les amoureux de la politique. Moi, j'entends ça, puis là, j'ai eu le goût d'aller courir au cinéma. Mais là, encore plus à savoir que c'est Micheline Langteau qui joue le rôle de la présidente de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle joue ce rôle-là. Et faut savoir aussi que Marie Vient, qui scénarise donc ce film-là, a quand même baigné un petit peu dans la politique. Elle a été attachée de presse. Donc, les histoires ne sortent pas de nulle part. Évidemment, il y a une certaine exagération. Et je serais curieuse que tu ailles le voir pour me donner ton opinion. Parce que, évidemment, tu as plus baigné dans la politique que j'ai baigné dans la politique. Mais je serais curieuse d'avoir ton avis lorsque tu l'auras visionné.
Mais j'ai peur d'être biaisée. J'ai peur d'être déçue. Parce que quand on a été à l'Assemblée nationale, travailler à l'Assemblée nationale, voir un film où c'est scénarisé ce qui se passe là-dedans, que ce soit pas nécessairement une reproduction fidèle de ce qui se passe réellement, j'ai peur d'avoir un regard plus critique que la moyenne des Québécois qui vont le voir, mais c'est sûr que je vais aller voir ce film-là, ça m'intéresse. J'allais te parler de La Fierté qui est encore du 1er au 7 août. Là, ça finit dans deux jours et on a beaucoup d'activités liées à La Fierté à Montréal.
Ben oui, c'était la 15e édition cette semaine, donc La Fierté Montréal, ça battait son plein un peu partout à Montréal, mais là, c'est vraiment le dernier week-end pour en profiter. Et il y a des beaux événements culturels à tous les jours. Ce soir, il y a un événement qui s'appelle iMix et les têtes d'affiche sont Patti Galant, Corneille, À la claire ensemble, Cœur de pirate, Dominique Fils-Aimé. Alors, une belle brochette d'artistes qui seront sur la scène TD dès 20h. Demain, à compter de 16h, ça se passe du côté du Casino de Montréal. Il y a 6 artistes, 6 femmes qui sont issues de la diversité. Il y aura Sarah May, Calamine, Ariane Moffat notamment. Ils vont se relayer sur scène. Ils vont nous offrir des musiques pop, disco, rap, électronique. Vraiment, ça va aller dans tous les sens. Et finalement, dimanche, 13h, eh bien, on le sait, hein, c'est le coup de grâce de cette Fierté Montréal et ça sera donné par le grand défilé de la Fierté. Ça se déroule sur le boulevard René Lévesque entre les rues Metcalf et Alexandre de Sèvres. Et là-dessus, j'ai envie de vous souhaiter un très beau week-end à tous.
Merci à toi aussi, Marika. Et on se reparle lundi. Je suis sûre qu'on va devoir faire le bilan de toutes ces activités culturelles plus intéressantes les unes que les autres.
À lundi.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Vous avez évidemment entendu parler de ces meurtres qui ont secoué la métropole durant les derniers jours. 3 victimes innocentes. L'assaillant a été abattu par la police au motel Pierre à Ville-Saint-Laurent. On connaissait ses problèmes de santé mentale et on se demande comment ça a pu arriver à Montréal. Alors, on va poser la question au ministre de la Sécurité publique du Canada, M. Marco Mendicino. Bonjour, M. Mendicino.
Bonjour à vous.
Donc, vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui a secoué à Montréal nos nuits. Ce sont des personnes innocentes qui marchaient dans la rue, attendaient l'autobus, se rendaient chez leur sœur qui ont perdu la vie. Et vous avez annoncé hier 41,8 millions de dollars pour prévenir les violences liées aux armes à feu. Avant de parler de votre annonce, Monsieur Mendicino, comment ça a pu arriver qu'une personne ayant des problèmes de santé mentale se retrouve avec une arme à feu?
Mais tout d'abord, il faut reconnaître que nous sommes dans un moment très dur et nos sympathies, nos pensées sont avec toutes les familles de les victimes. Et le status quo, évidemment, n'est pas acceptable. Et ça, c'est la raison que j'étais là hier pour livrer 40 millions de dollars pour la communauté. Sous votre question en particulier, l'accès à les services à santé mentale, ça, c'est la raison qu'on avait créé le programme de renforcer et bâtir des communautés qui sont plus en sécurité. La vision de ce programme est d'augmenter la capacité des organismes locaux qui comprend mieux et bien les besoins de la communauté par offrir des services qui peuvent augmenter la capacité des services santé mentale, qui peuvent augmenter des programmes qui offrent les skills et les qualifications pour avancer l'éducation et la carrière de la jeunesse et les communautés qui sont au haut risque à la violence causée par les armes à feu. Et c'est seulement une façon et un pilier d'une stratégie compréhensible parce que c'est un enjeu qui est tellement complexe Donc, il faut aussi avancer avec le projet de loi C-21 qui inclut des propositions concrètes, par exemple le gel national pour les jambes de poing, par exemple les nouveaux protocoles des rouges drapeaux pour mieux protéger les femmes qui sont des victimes disproportionnées.
Mais la vérité, M. Mendicino, et je suis désolée de vous couper, la vérité, c'est que le projet de loi C-21, il s'attaque à la vente des armes légales. Les armes que l'on peut acheter de manière légale s'attaquent à leur vente, à leur transfert et créent ce gel. Mais la violence armée qui secoue notamment le Québec et particulièrement la région de Montréal, ce sont des armes qui sont illégales, qui proviennent de la contrebande, dont on n'est pas au courant. Et je ne pense pas que C-21 aurait empêché l'assaillant hier d'avoir accès à une arme à feu pour tuer des concitoyens.
Mais deux parties de votre question. Premièrement, le fait et la réalité et l'univers de les armes de poing a augmenté beaucoup pendant les dernières décennies. Il y a presque 55 000 nouveaux enregistrations chaque année. C'est un univers qui continuait d'augmenter. Donc, avec un gel national, on peut renverser cette tendance. Deuxièmement, il faut aussi adresser le défi à nos frontières. Et ça, c'est la raison qu'on avait ajouté des ressources. Ça, c'est la raison qu'on a déjà investi des millions de dollars pour acheter de nouvelles technologies, pour mieux interdire et pour arrêter le trafic illégal des armes à feu. Donc, avec cette deux piliers et même avec une stratégie de prévention qu'on avait avancée hier avec une annonce qui était significative pour la province de Québec en partenariat avec des communautés locales, par exemple l'équipe RPD, on peut réduire la violence causée par les armes à feu.
Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'armes qui cheminent, notamment des États-Unis. Monsieur Mendicino, comment lutter contre la violence armée, notamment les gangs de rue? Comment s'assurer qu'une personne que l'on connaît dangereuse, que l'on connaît ayant des gros problèmes psychologiques, ne puisse pas mettre la main sur une arme à feu et tuer trois personnes pendant la nuit, en à peu près 24 heures? Comment vous allez vous attaquer à cette question-là?
Et c'est un problème très complexe et vous avez des raisons et c'est assez. Donc, il faut avancer avec quelques initiatives. J'avais déjà mentionné C-21. Il faut passer cette approche de loi en force. Deuxièmement, sur la question de nos frontières, j'avais un bon rapport avec mon homologue américain, le secrétaire Mayorkas, et nous deux, nous avons on a créé une entente pour créer un forum international pour partager d'informations, pour partager d'intelligence et pour partager des technologies pour comprendre où est la route qui a été utilisée par les éléments criminels, les organismes criminels, pour faire plus de progrès. Donc, la dernière année, on avait un record, un nombre de saisies des armes à feu illégales, c'est bon, mais il faut aller plus loin. Donc, avec une stratégie, avec des bonnes lois qui fait des bons sens sur le terrain, avec une stratégie qui fait des investissements à la frontière pour arrêter le trafic illégal à les armes à feu, et avec une stratégie de prévention qui peut arrêter la violence avant de commencer, on peut faire plus de progrès.
Monsieur Mendicino, vous avez annoncé hier 42 millions de dollars, mais je pense qu'il y a aussi une annonce aujourd'hui que vous allez faire à 10h30 avec la ministre Mélanie Joly, et vous dites que c'est une annonce sur les efforts continus du gouvernement afin de garder nos communautés à l'abri de la violence causée par armes à feu. C'est très large. Ça veut dire quoi concrètement?
Mais il faut continuer de chercher des solutions parce que, comme vous connaissez, le projet de loi C-21, il n'est pas en force encore. Il y a des obstructions qui étaient lancées par les conservateurs, toujours dans la Chambre des communes. Donc, moi et la ministre Joly et toute l'équipe au gouvernement fédéral ont continué de chercher des autres autorités pour faire des progrès sur l'enjeu de la violence causée par les armes à feu. On a en plus de dire un peu plus tard aujourd'hui, mais la plus importante chose pour vous et votre audience est que le gouvernement a jamais resté. qu'il faut agir avec une stratégie qui est compréhensive, parce que la situation est inacceptable. Trois mètres encore pendant les dernières quelques journées au Montréal. Il faut continuer, et c'est exactement ce qu'on va faire.
Ces trois meurtres d'une personne qui est dérangée mentalement, qui avait des problèmes de santé mentale, mais on a déjà vu en plein jour, notamment à Laval, des armes à feu, des personnes faire feu sur d'autres personnes en plein jour à côté d'enfants sans aucune impunité, sans être dérangée. On voit des jeunes mourir sans aucune explication. Monsieur Mendicino, quand est-ce que vos efforts vont donner des résultats? Parce que là, les parents commencent à être inquiets, la communauté commence à être très inquiète.
C'est inacceptable, c'est tragique. Et il faut jamais oublier l'impact à la communauté. Et moi-même, chez moi, ici à Toronto, il y a plusieurs des tragédies. Donc, c'est toujours difficile et dur. Quand je parlais avec des familles, ils ne peuvent pas faire de justice à l'air perdu, mais ça, c'est mon inspiration, ça, c'est la motivation de moi et mon équipe à la sécurité publique. Ça, c'est la motivation de tout le monde. Il faut travailler ensemble avec les provinces de Québec. Je remercie mon homologue, la ministre Guilbeault, même la mairesse à Plante, qui m'a invité à la dernière printemps à la forum. Peut-être vous souvenez le forum à Montréal. Donc, il faut continuer. Ça, c'est le bottom line. Il faut continuer avec des progrès, avec des initiatives concrètes par passer le projet de loi 21, par continuer avec les investissements à la frontière et finalement par avancer avec des programmes comme l'annonce hier qui peuvent améliorer l'accès à les services santé mentale, par améliorer et augmenter la capacité de la communauté d'offrir des services pour mieux protéger notre jeunesse et nos communautés qui sont au haut risque à la violence causée par les MFA.
Il y a une autre question qui demeure très importante, M. Mendicino, c'est le travail de conjoint avec les corps de police autochtones, notamment le corps de police d'Akwesasne. Quelles sont les discussions que vous avez avec les corps de police autochtones pour s'assurer que les réserves autochtones ne soient pas des voies de passage pour le trafic d'armes illégales?
Je viens de parler avec plein des communautés autochtones, même Marco Sassini, le chef, et moi, et des autres chefs des communautés autochtones à parler le dernier mois. Et il faut collaborer avec eux. Il faut que les communautés autochtones collaborent avec tous les services policiers pour arrêter le trafic des armes à feu illégales. Tout le monde comprend ça. Et on va continuer avec cette filière qui est une partie de stratégie compréhensive. Donc, c'est un problème complexe. Il faut comprendre ça. Mais le status quo est inacceptable. Et de notre côté, à le gouvernement fédéral, on va continuer avec un agenda qui est agressif, mais en même temps pratique et concrète. Et ça, c'est la raison que j'étais là hier matin à Montréal pour appuyer votre communauté. Et on va continuer.
Monsieur Mendicino, on espère rapidement que vos efforts vont donner des résultats parce qu'entre-temps, ce sont des jeunes, des pères de famille qui perdent la vie dans les rues de Montréal et ailleurs. On a hâte d'entendre votre annonce à 10h30 et on va probablement vous parler pour la suite des choses.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Marco Mendicino, je le rappelle, est ministre de la Sécurité publique fédérale.
Yasmine Abdel-Fadel, une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio.
On revient sur notre entrevue qu'on vient d'avoir avec le ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino. Stéphanie Touga, je suis contente de t'avoir pour savoir s'il t'a convaincu, puisque je me pose encore la question.
Eh là là, convaincue. Écoute, on va écouter ce qu'il y a à dire dans les prochains jours, mais pour l'instant, je suis assez tiède, pour être parfaitement honnête. Je sais pas toi ce que tu as retenu de cette...
J'ai retenu qu'il disait que c'était une situation délicate et importante, ouais. Qu'on va regarder ça, puis qu'on va travailler fort conjointement avec toutes les parties prenantes et que, bref, aucun verbe d'action.
Il y a tous les bons mots-clés, quoi. Fait qu'il a dit tous les bons mots-clés, puis il a sorti un chèque de 40 millions de dollars, puis arrangez-vous avec ça, essentiellement. Là, moi, c'est un peu ce que j'ai retenu. J'étais peut-être un peu sévère, mais moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à Montréal. Pendant ces 2 années-là, on a fait une série de demandes importantes au gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec était présent. Honnêtement, là, on va le donner à Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, elle a été au rendez-vous quand il était question de sortir le chéquier, mais aussi mettre des mesures concrètes pour avoir des équipes SQ-SPVM, avoir une vision pour la lutte au trafic d'armes. Dans le code fédéral, ils ont toujours été le grand absent. Puis là, ce matin, du moins quelques heures ou quelques jours après les 3 meurtres en 24 heures dans la région métropolitaine, Marco Mendicino sort 42 millions de dollars, comme ça, c'est un peu de son chapeau, pour lutter contre pour des projets locaux de prévention de la lutte au trafic d'armes. Pour moi, c'est un petit peu pas assez. Je vais saluer parce que c'est important, puis le fédéral est là, puis super, mais pour moi, c'est largement insuffisant. Il y a des mesures que le gouvernement fédéral a dans sa poche qui ont déposé d'ailleurs une partie dans le projet de loi C-21. On verra bien ce qui va se passer avec ce projet de loi-là. Mais le projet de loi C-21 vient resserrer la vis à ceux qui ont une arme de poing, contrôler les armes de poing, mettre de l'argent puis des mesures pour empêcher qu'il y ait des armes qui traversent la frontière aux États-Unis. Mais là, il n'y a rien qui s'est fait. Ça fait 7 ans que le gouvernement Trudeau est au pouvoir. Ça fait 7 ans que les villes disent qu'il y a une montée de la violence dans les grands centres partout au Canada. Et pourtant, il n'y a rien qui a été fait de structurant. Pour moi, le 40 millions de dollars aujourd'hui, c'est un peu une manière de dire c'est tout ce qu'on est capable de vous donner, c'est ce qui reste dans le fond du tiroir, puis arrangez-vous avec ça.
Trop peu, trop tard, diront certains. Puis je me disais, imaginez si c'était le gouvernement conservateur qui avait exactement les mêmes actions en matière de lutte à la violence armée. Les libéraux auraient déchiré leur chemise. En fait, ils n'auraient pas eu assez de chemise à déchirer pour dire que c'est ça, les conservateurs, c'est les républicains des États-Unis qui aiment bien ça, les armes à feu, puis qui veulent qu'on devienne une culture d'armes à feu, alors que là, ils font pas grand-chose.
Ben exactement. Honnêtement, si tu me mettais sur papier, là, c'est le bilan du gouvernement libéral en matière de lutte à la criminalité, puis tu me demandais c'était quelle formation politique, sans me dire c'est qui au gouvernement, probablement que je suis enclin à dire que c'est le gouvernement conservateur qui est un peu laxiste, du moins, parce que sa base électorale souhaite là maintenir un certain accès aux armes, alors que normalement, la base libérale et le gouvernement libéral sont plus interventionnistes en la matière. Ils ont fait des mesures dans les dernières décennies qui valent la peine d'être soulignées. Mais là, honnêtement, le gouvernement Trudeau manque vraiment à l'appel en matière de lutte à la criminalité. Je pense pas qu'il est trop peu, trop tard. Il est jamais trop tard. C'est juste que je trouve ça décevant quand les seuls moments où le gouvernement intervient puis injecte de l'argent, c'est quand il y a une tragédie. Je trouve ça un peu ironique qu'aujourd'hui, Mendicino vienne à son émission Yasmine puis il parle de prévention alors qu'on est on vient de vivre une tragédie qui est
on n'a pas encore enterré nos morts, là.
Ben, on n'a vraiment pas enterré nos morts. Je trouve que c'est un peu vouloir mettre un plaster sur une plaie qui est vive puis qui est encore bien, bien, bien présente, là. Pour moi, c'est pas du tout le bon mécanisme. Il est complètement absent du radar. Je veux dire, les villes, là, il y a une flambée des violences armées dans les grandes villes. Montréal est somme toute épargnée quand même. Là, je regardais les statistiques. Oui, là, il y a quand même il y a une montée des armes à feu dans les 10 dernières années du nombre de violences par armes à feu. Mais quand même, si on regarde les voisins comme Toronto, par exemple, il y a un indice de criminalité largement pire, mais le gouvernement fédéral n'est pas présent. Moi, honnêtement, c'est ce que je retiens, puis je trouve qu'aujourd'hui, cette annonce-là est un peu... Je la trouve tiède. Fait qu'attendons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais j'espère qu'ils vont annoncer 2 choses. 1, de l'argent à la frontière pour empêcher que les armes rentrent par les États-Unis, parce que il y a une portion immense des armes qui rentrent au Canada, qui rentrent par la frontière. 2, pour vraiment qu'on serre la vis à ceux qui possèdent des armes de poing. Il faut que ça devienne illégal au Canada, pour moi, de vendre, de posséder des armes de poing. Puis le gouvernement doit agir en ce sens-là. Pour moi, c'est la seule manière d'y arriver.
Mais Stéphanie, il y a déjà le projet de loi C-21 qui est à l'étude, qui vient... Mais on parle toujours ici des armes légales. Or, les criminels, ceux qui tuent dans les rues, les gangs de rue, ils vont pas l'acheter au Canadian Tire, leur arme de poing. Ils vont pas l'enregistrer, leur arme de poing. On ne sait pas combien il y a d'armes qui circulent auprès des criminels actuellement. Et c'est ça qui est le plus dangereux.
Le seul outil que ça, dans son cas, aussi quand c'est au gouvernement pour lutter contre ce genre de fléau-là, c'est d'avoir des mesures dissuasives. Parce que t'as beau mettre des incitatifs du genre, si vous ramenez une arme illégale, on vous donne 1 000 $, ça fonctionnera pas.
Mais non.
Mais si tu mets des mesures dissuasives, tu sais, la carotte ou le bâton, puis tu utilises le bâton, puis tu sévis sur ceux qui sont soit qui ont des armes illégales en leur possession qu'on arrête, ou alors, et aussi, en fait, qui sont des récidivistes, si on accentue les peines, le coût-bénéfice devient trop grand, mais peut-être qu'on va en dissuader certains d'avoir des armes illégales. Je disais peut-être, personne n'a une boule de cristal, mais au moins on agit. Puis je pense que malheureusement, là, je pense qu'on est rendu là. On veut pas devenir comme si c'était une culture à l'américaine. On veut éviter à tout prix qu'on se ramasse que l'ensemble des maisonnées au Canada aient des armes. Donc, à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Ça prend des mesures dissuasives, ça prend le bâton. Moi, je pense qu'Médicino n'aura pas le choix de commencer à réfléchir à la possibilité d'être plus dissuasif pour ceux qui ont des armes illégales en leur possession.
Ça serait le temps. Et revenons à Taïwan. On en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a Nancy Pelosi qui est persistée signe, puis on est avec Taïwan et la Chine qui n'est pas plus contente.
Ben non, persiste et signe, comme tu disais. Je pense que malheureusement, on en parlait hier, là, mais elle a le doigt pris dans l'engrenage. Puis en ce moment, ça a monté jusqu'au coude, hein, parce que Nancy Pelosi a déclenché la colère de la Chine. C'est en se rendant à Taïwan, comme tu disais, qui était alors que c'était pas arrangé, c'était pas informé du côté de la Chine. Et la Chine, ben on le savait, allait pas rester. Rester sur assise à regarder Nancy Pelosi venir parader à Taïwan. Donc, la Chine a commencé à réagir. Il y a des missiles même qui ont survolé au-dessus de Taïwan hier. Il y a des vingtaines de bateaux, un important nombre d'armements là, qui se sont rendus à la frontière de Taïwan. Il y a des missiles qui ont survolé Taïwan, qui ont survolé aussi jusqu'en zone économique exclusive, donc dans les eaux territoriales japonaises. Alors que Nancy Pelosi était au Japon avec le premier ministre japonais. Donc, on voit que la pression a augmenté ça a forcé, je pense que Nancy Pelosi, quand même, faut lui donner, ça a forcé le premier ministre japonais à se positionner clairement en disant qu'ils allaient non seulement s'opposer aux activités militaires chinoises, mais que le Japon et les États-Unis continueraient à coordonner le maintien de la paix là, dans le détroit de Taïwan. Donc, ça a forcé un peu le Japon à s'activer parce qu'ils sont à côté. Ils sont pris entre la Chine et Taïwan via des eaux qui sont partagées. Donc, le Japon est dans une situation vraiment délicate. Puis, à rappeler que quand même, les États-Unis ont une base militaire d'à peu près 55 000 militaires actifs au Japon. Donc, il y a quand même là une montée de la tension dans la région qui est un peu sans précédent, pas sans précédent, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'activités militaires dans la région.
Stéphanie, j'aimerais t'entendre sur la mobilisation des démocrates et en fait l'effet de ces tensions-là la Chine à cause de la visite de Nancy Pelosi lors des prochaines élections de mi-mandat de Joe Biden. Comment ils vont articuler tout ça pour y donner du sens?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la base naturelle de Pelosi et de Joe Biden qui appuie la visite de Pelosi, mais plutôt les républicains.
Ben oui.
Les républicains se sont positionnés en faveur de la visite en disant qu'il fallait soutenir la démocratie à Taïwan, fallait mettre à mal le régime chinois qui fait des manigances à quelque part un peu partout sur la planète. Puis c'est quand même surprenant parce que c'est pas des alliés naturels. Pelosi, elle a quand même été la poster girl, si tu me prêtes l'expression, de celle qui voulait mettre à mal le régime Trump. Donc de voir aujourd'hui les républicains s'activer pour la soutenir dans sa visite, je trouve ça plutôt intéressant, pardon. Mais après, comment est-ce que ce genre de mesure-là ou d'annonce-là va se traduire dans l'élection? Bonne question. J'aurais pensé que le fait que Joe Biden mette à mal le régime du Taliban aurait eu un impact considérable, en fait, sur son taux de popularité. Mais là, avec tout le bruit qui s'est passé pour la visite de Pelosi à Taïwan, on dirait que ça a complètement été évincé, on n'en parle plus. Mais pour moi, le leg, en guillemets, important de mi-mandat pour Joe Biden, ça a arrêté celui-là. Je ne sais pas s'il va réussir à capitaliser là-dessus pour faire une démonstration de force pour sa population puis son électorat. Je lui souhaite, parce qu'honnêtement, c'est quand même un tour de force qu'il a fait à quelques mois des mi-mandats qui seront en novembre. Mais pour l'instant, en fait, là, c'est vraiment Mme Pelosi, son voyage qui
a volé la vedette.
Attention. Ben oui, ça vole la vedette.
Ça a volé la vedette à Joe Biden. On parle plus de Nancy Pelosi que de Joe Biden aujourd'hui, alors que normalement, lorsqu'on abat le numéro un d'Al-Qaïda à Kaboul, ben c'est une victoire présidentielle, pas celle de la Chambre des représentants. C'est assez particulier de voir... On a l'impression qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, Nancy Pelosi et Joe Biden. À quel jeu ils jouent, on le sait pas. Peut-être que ça va s'avérer payant lors des prochaines élections de mi-mandat. Stéphanie, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
Merci, Yasmine.
À lundi. Donc, je reviens sur Nancy Pelosi et Joe Biden qui vont devoir défendre les couleurs démocrates aux prochaines élections de mi-mandat. Est-ce que c'est pour cacher la difficulté financière américaine, de l'économie américaine, les taux d'inflation qui est historique, qui dépasse le 9 % les États-Unis nous ont souvent amenés à parler de politique internationale pour cacher les enjeux nationaux. Est-ce une stratégie pour ne plus parler des entreprises qui ont de la misère, des familles qui souffrent à cause de l'inflation? Peut-être. On va suivre ça lors des élections de mi-mandat.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1877 827 2346. Cube radio.
En direct à LCN.
Allô, allô.
On revient évidemment sur ces trois meurtres gratuits survenus à Montréal. Et là, on en connaît davantage sur le suspect dans cette affaire. On savait qu'il était dangereux.
On le savait très bien. C'était prouvé, avéré. On était au courant. On le savait dangereux. On savait qu'il était capable de s'en prendre à l'intégrité physique d'autrui. On savait qu'il refusait de reconnaître sa maladie, refusait de prendre sa médication. Et malgré ça... on l'a libéré. On l'a libéré alors qu'il représentait un risque élevé. Puis là, je me dis, comme société, ceux qui ont pris la décision là, de le libérer, comment ils vont expliquer à la famille des trois victimes là, qu'on le savait dangereux, on savait qu'ils pouvaient faire ça, mais on a pris quand même cette décision. Sur quoi pouvait-on se baser pour prendre cette décision-là? Quand je pense aux deux orphelins de la deuxième victime, deux jeunes en bas âge qui ont perdu leur père, qui s'en allaient tout bonnement travailler dans un hôpital de santé mentale, tu sais, la coïncidence est assez particulière.
Ouais.
Ben lui dire qu'on savait qu'il était dangereux, puis malgré ça, on l'a laissé faire ce qu'il a fait. On l'a laissé en liberté, sans surveillance. Il a pu se procurer une arme à feu qui a tué à bout portant trois personnes sans histoire. Mais on leur doit des réponses. Je ne sais pas qui va être en mesure d'articuler des réponses qui soient pertinentes, qui soient justes et qui puissent expliquer, parce qu'on ne peut pas excuser ou justifier cette décision-là. Je me dis qu'on a un réel examen à faire. Puis combien y en a-t-il des personnes qui sont dans le même état psychiatrique que l'assaillant, qui sont aujourd'hui dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec, dans les rues de Gatineau ou de Sherbrooke et qui peuvent avoir accès à des armes à feu? Je veux pas me poser la question. J'ai trop peur de la réponse.
Mais Yasmine, il y a certainement des gens qui se demandent ce matin qu'est-ce que ça va prendre pour qu'un événement comme ça, bien, ça se reproduise plus. Là.
Une prise de conscience. Une réelle prise de conscience. Parce que là, ces trois victimes qu'on a vues qui sont mortes, c'est aussi simple que ça, parce que la société a abandonné quelqu'un qui était dérangé psychologiquement et qui était dangereux. Quand on est dangereux, qu'on est capable de s'armer, capable de faire mal à d'innocentes victimes, ben il me semble qu'il n'y a pas de laxisme à avoir, il n'y a pas de demi-mesure à avoir, il n'y a pas de risque à prendre pour la sécurité d'autrui. On est quand même au Québec, dans un pays dans une province riche au Canada, dans un pays qui est riche, on a les moyens de prévenir ce genre d'action, de mettre de l'argent sur la table pour s'assurer que toutes les personnes qui ont des problèmes psychologiques à haut risque de violence armée, notamment, ou de violence tout court, puissent être internées et recevoir les soins requis. C'est pas là, aujourd'hui qu'il faut se poser la question. On aurait dû se poser la question il y a déjà quelques années.
Yasmine, autre dossier judiciaire qui a fait jaser, ça se passe en Outaouais. Cet homme qui a battu, étranglé sa femme, mais pouvait quand même voyager. Là, le DPCP veut en appel dans ce dossier-là.
Et ça me rappelle étrangement le cas de Simon Hull, qu'on a connu en début d'été, qui a commis des agressions sexuelles, il les a reconnues. Il a même avoué avoir fait une deuxième victime. Et malgré ça, le juge Poliquin avait déterminé que, ben non, pauvre petit pit, on va pas y gâcher sa carrière, puis il va devoir voyager, on va y donner une absolution conditionnelle. Même chose pour Joshua Chou, qui aurait étranglé, battu et menacé sa femme, son ex-conjointe. C'est aussi reconnu par les tribunaux, mais le juge a déterminé que, ben non, il faut qu'il voyage, il faut lui permettre de voyager, pas de casier judiciaire. Et je me dis, est-ce que ces personnes-là voient les médias, elles lisent les journaux, regardent le téléjournal, parce que très régulièrement, on compte nos féminicides, très régulièrement, on compte nos victimes d'agressions sexuelles, très régulièrement, on voit les ravages des conséquences de la victimisation, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit de la violence conjugale, et on voit à quel point ces femmes-là sont isolées, ces femmes-là vivent dans la détresse psychologique. Est-ce que ça a un poids, ça, par rapport à la carrière ou la capacité de voyager d'un agresseur et d'un criminel? Je me demande si cette jugeote-là a sa place auprès de notre magistrature. On a une sérieuse question à se poser. Notre système de justice doit être plus présent pour les victimes. Et des décisions comme ça, ça nous fait évidemment douter de la justice au Québec. Heureusement que le DPCP va partir en appel dans ces deux décisions.
Oui, on va voir donc qu'est-ce que ça va donner. Yasmine, merci beaucoup. Passe une belle journée.
Merci et à lundi.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel.
Il y a un texte poignant dans le journal Le 24 heures, un texte écrit par Anne Lovely-Étienne sur son expérience comme touriste en Italie, comme touriste noire avec son conjoint blanc en Italie. Et on a Mme Étienne avec nous. Bonjour, Anne Lovely-Étienne.
Bonjour, Yasmine.
Alors, racontez-nous votre voyage, racontez-nous ces regards.
Bien, en fait, faut dire que, à prime abord, mon conjoint, lui, est d'origine italienne. Donc, nous sommes arrivés pour des vacances à San Remo, qui est une magnifique ville sur la Côte d'Azur, juste à côté de Monaco. Et nous logions dans un hôtel de luxe. Et il faut dire que, bon, c'était des vacanciers européens qui étaient là, eux aussi. Je pouvais compter, comme je dis bien dans mon texte, compter sur mes doigts le nombre de vacanciers noirs qu'il y avait. Et il y avait cette espèce de regard soutenu par les gens partout où on allait. Et le truc, c'est au restaurant, à l'hôtel, ou encore dans les marchés, on s'adressait uniquement à Jérémy, mon conjoint.
Est-ce que,
et je me disais,
à quel moment ça vous a frappé que vous vous êtes rendu compte que c'est pas à vous qu'on s'adressait, que c'était à votre conjoint qu'on s'adressait?
Ben voilà, c'est que moi, je croyais à prime abord que c'était parce qu'il était italien et qu'il maîtrise très bien la langue italienne. Mais finalement, lorsque je suis arrivée à un marché, ça s'appelle un mercato, c'est un marché assez ouvert où je m'apprêtais à l'acheter un manteau. Et lorsque j'ai sorti ma carte de crédit, la vendeuse, avec un air vraiment stupéfait, m'a simplement lâché un « wow ». Et puis, elle a continué à s'exprimer en italien à mon conjoint. Et c'est là que Jérémy m'a ensuite avoué qu'elle a dit « pourquoi vous n'achetez pas un deuxième manteau à votre accompagnatrice? C'est peu cher payé pour avoir des plaisirs de vacances. » Quelque chose comme ça. Et par la suite, j'ai aussi fait la rencontre d'une influenceuse milanaise qui logeait au même hôtel que moi et qui m'a posé toutes sortes de questions sur mon conjoint, mais jamais des questions à propos de moi. Alors, de ce que j'ai conclu avec ses regards, avec ses conversations un peu, que je peux dire assez particulières, je me suis dit alors, OK, les femmes, peut-être ici en Italie, n'ont pas le même vécu que moi au Canada. On a complètement deux situations. Les communautés noires n'ont pas la même situation, les mêmes chances d'égalité que les Italiens, en fait, qui vivent en Italie. Et c'est là que j'ai fait mes recherches et que j'ai trouvé des faits hyper intéressants pour comprendre l'histoire de l'Italie et des migrants africains. À prime abord, il faut savoir que l'Italie a commencé à coloniser l'Afrique dans les années 1800 parce que, comme toutes les autres puissances européennes, ils voulaient eux aussi coloniser une terre vierge. Et c'est là que les Italiens se sont rendus compte que les femmes noires étaient devenues comme des créatures de fantasmes sexuels, si je peux dire comme ça, au fil de leurs aventures en Afrique.
Mais je peux pas croire qu'en 2022, il y a encore des relents de ça.
Ben, je pense que c'est des biens inconscients, Yasmine. Je pense que c'est bien. En fait, le colonialisme a donné un héritage, de biens inconscients où les Italiens blancs croient encore que les femmes sont des créatures. En fait, c'est de la violence coloniale, simplement. Et de ce que je me suis rendu compte, c'est que l'histoire le dit très bien. Le fascisme de Mussolini a interdit des relations entre les hommes italiens et les femmes noires. C'était interdit par la loi. Alors, déjà, les enfants qui étaient métissés italiens, africains, étaient abandonnés. Alors, il y a toute cette image de femme noire qui est seulement vouée, je pense, à soit à la prostitution ou à être une bonne à la maison. Il y avait ce qu'ils appelaient les madamas. C'était un terme très précis de ces femmes noires-là qui prenaient soin de la maison, mais qui prenaient aussi soin des hommes. Ah. Alors, vous pouvez imaginer quelle sorte de dynamique qu'il y avait. Alors, de voir mon conjoint blanc qui est 10 ans de plus de mon aîné, avec moi, dans un village italien, les gens étaient hyper stupéfaits.
Comment lui réagissait à ça, à ses regards? Est-ce qu'il sentait le poids de ses regards sur vous comme couple?
Absolument. Absolument. Et je pense, en fait, il prenait le temps même de préciser, écoutez, ma conjointe, elle est aussi journaliste. Les deux, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il prenait vraiment le temps. En vrai que Jérémy voulait justifier notre couple en quelque part pour qu'on ne pense pas que j'étais justement à son crochet ou parce qu'il venait de me sauver de la misère ou que c'était un pourvoyeur.
Mais là, on est quand même en Italie, on est en Europe, on est en 2022, oui. On est dans un pays oui. hyper touristique où des personnes de toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions vont, tu sais, de manière très régulière. Oui. Avez-vous regretté vos vacances?
Pas du tout. Tu sais, à la limite, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, c'était une expérience en soi. Et de le vivre, c'est sûr qu'une femme caucasienne qui va en Italie n'aura jamais la même expérience que moi. J'en suis tout à fait consciente, mais je prends le temps, moi, d'interviewer. En vrai, que c'est comme plus fort que moi, c'est peut-être mon métier de journaliste, mais de comprendre la réalité que j'appelle mes frères et mes sœurs de couleur, de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, d'être là-bas, j'ai vraiment pu avoir une perspective qui était différente et surtout de m'être dit à quel point je suis chanceuse de vivre au Québec pour tout ça. Donc, mais somme toute, j'ai eu de très belles vacances.
Est-ce qu'il y a d'autres pays, pas durant d'autres voyages, où vous avez senti les mêmes regards, les mêmes préjugés non dits?
Mais le sud des États-Unis, c'est sûr qu'on s'entend, il y a toujours une lutte raciale qui existe encore aux États-Unis, qui est extrêmement présente. C'est sûr qu'à New York, non, on la sent pas, c'est un État qui est beaucoup plus libéral que si on allait, par exemple, au Texas. Dans le sud des États-Unis, on le sent, ça. Mais en Italie, il y a beaucoup de consoeurs à qui j'ai parlé et elles m'ont tous dit, sans exception, que c'était le pays auquel elles ont vraiment ressenti ce regard de curiosité, un regard qui était perturbé par par rapport à la situation, comment ça se fait qu'une femme noire peut se procurer des objets sans avoir à demander, ou peut se payer un hôtel, ou peut voyager seule. Donc, ils ont vraiment une conception, mais c'est en train de changer. C'est vrai que le nord et le sud de l'Italie, c'est quand même très différent. Le sud, ils sont vraiment encore en 1937, comme aux États-Unis, à imposer la loi, je dirais. Mais dans le nord, on est en train de voir vraiment un métissage culturel qui est de plus en plus présent. Mais l'Italie est reconnue, malheureusement, pour être un pays qui est encore raciste. Et je le dis parce que, tu sais, je veux pas peser mes mots, parce que c'est véritable. Le joueur de football très connu, Mario Bettini, a reçu des bananes sur un terrain.
Ah oui, c'est épouvantable.
C'est un terrain de soccer, pardon. Et il s'est fait crier des choses absolument absurdes. Et c'est ce qu'on voit de beaucoup en Italie. Puis c'est un Italien, il a été adopté par des parents italiens, ce joueur de soccer. Donc, non, il y a encore beaucoup d'avancements à faire dans le monde. Et même si c'est pas parfait ici au Québec, Yasmine, je peux vous dire que disons que le partage entre les communautés, le métissage culturel ici au Québec est beaucoup plus facile, disons-le comme ça.
Un lovely, quand on se compare, on se console, mais on a encore du chemin à faire partout, ici aussi.
Oui.
Anne Lovely Étienne, journaliste, chroniqueuse et animatrice, merci beaucoup d'avoir relaté cette expérience. Je ne sais pas comment la qualifier, mais disons à tout le moins qu'elle nous ouvre les yeux.
Ben voilà. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne journée.
Bonne journée.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-cube-radio.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Bonjour, Félix.
Bonjour.
Alors, ce suspect dont on parlait hier, ben finalement, on le connaissait dangereux.
Oui, on savait qu'il était dangereux, on savait qu'il pouvait passer, en fait, on se doutait qu'il pouvait passer à l'acte, on se doutait qu'il pouvait être violent, il a une feuille de route criminelle bien chargée, mais surtout, en fait, pas qu'uniquement, mais surtout, il a été obligé par le tribunal de suivre des traitements en psychiatrie. C'est assez important. Ces traitements devaient se dérouler et se sont déroulés à la Cité de la Santé de Laval, entre autres, dans le département de psychiatrie. Il a été admis de force parce que parfois, quand quelqu'un refuse de se soigner, on doit s'adresser au tribunal pour qu'il rende une ordonnance obligeant quelqu'un soit à aller se faire soigner à l'hôpital, soit à prendre une médication, etc., etc. Ça n'arrive pas très souvent, non, mais ça arrive. C'était son cas. Le tribunal s'est penché sur une autre requête à un certain moment. C'est la requête de remise en liberté. Hein? Et dans cette requête de remise en liberté, nous dit Claudia Berthiaume du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal ce matin, on a statué qu'il représentait, je cite, un risque important pour la sécurité du public. Je pense que ce n'est pas à négliger dans les circonstances. L'organisme qui rend, si on veut, l'autorité réglementaire dans ça, c'est la Commission d'examen des troubles mentaux. C'est cette commission qui statue sur les possibilités, entre autres, de récidive, et etc. Alors, tu vois, c'était pas qu'un séjour en hôpital, au département de psychiatrie, c'était plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique. Il était schizophrène. Et il y avait des traits de personnalité antisociale, il y avait des traits de personnalité narcissique aussi, et il n'observait pas ses traitements. Alors, tu t'imagines le cocktail extrêmement explosif qu'il présentait, ben c'est un peu ça. Si bien que je crois que peut-être qu'aujourd'hui, il est intéressant de regarder dans quelle case entre Abdullah Shaikh. Ce qu'on nous dit, en fait, ce que l'enquête policière donc tend à démontrer, d'abord, je pense que c'est assez important de couvrir ce qui se passe dans l'enquête policière. Elle ne croit pas, l'enquête policière, que Shaikh, a fait ce qu'on appelle du scoring, donc a tenté de tuer des gens pour augmenter sa propre gloire au sein d'un mouvement criminel. C'est ce qu'on appelle le scoring. Pour l'instant, on ne croit pas que Shaik a été commandité pour commettre ces meurtres et on ne croit pas qu'il ait été influencé par une tierce partie pour les commettre non plus. On a cru que ce jeune homme-là de 26 ans aurait pu agir pour des motifs religieux. Mais attention, si Shaik appartenait justement, si la place de Shaik était à l'institut psychiatrique et si sa place et si sa schizophrénie n'était pas contrôlée, s'il était dans un délire paranoïde, un délire schizophrène.
Ben là, toutes les raisons deviennent bonnes pour passer à l'acte, là, que ce soit la religion, la frustration, name it, là, toutes les... C'est pas réellement pour des motifs religieux ou des motifs XYZ.
Non. Puis de toute façon, que tu crois en la religion à laquelle tu veux bien croire, si t'es dans un délire psychotique puis tu attribues tes gestes à la religion, ben bien sûr que...
Carl Girouard qui a détruit des vies à Québec, là, il ne va pas nous faire croire que c'est pour une question de religion. Là, visiblement aussi, il y avait des problèmes de santé mentale.
Il y avait des problèmes de santé mentale, justement. J'arrivais à Carl Girouard parce que cet inconnu puis ce manque de sécurité publique aussi, ou le problème des gens avec leur propre sécurité, ça nous force beaucoup à vouloir des réponses rapidement, n'est-ce pas, sur les événements qui surviennent puis sur ce qui se passe dans notre ville, sur ce qui se passe à Montréal. Puis on cherche des réponses, puis on les veut rapidement, si bien qu'on a tendance à assez rapidement catégoriser des faits. Ce avec quoi les policiers sont beaucoup plus prudents. Je sais pas si ça t'intéresse, ces affaires-là, mais j'ai parlé à des profileurs hier. Des profileurs criminels qui ont suivi à Quantico, donc l'institut de police du FBI, de la police fédérale américaine, des cours de profilage criminel. C'est le FBI qui a développé les premières écoles, si l'on veut, de profilage. Et il y a trois types. Si on exclut, disons, l'homicide intrafamilial, il y a trois types de tueurs qui feront plusieurs victimes. Et on a le tueur de masse. Bien sûr, on n'est pas devant un tueur de masse parce que le tueur de masse va faire ses victimes à peu près toujours dans la même enceinte. Donc, on n'a qu'à penser très malheureusement à Polytechnique, à Dawson et à toutes ces tueries aux États-Unis, tueurs de masse. Le tueur en série va être excité souvent par une pulsion sexuelle ou une pulsion incendiaire. Et l'autre catégorie, et merci à cette abonné Twitter qui m'a suggéré le terme français, bien que ça soit très difficile à traduire, c'est le « spree killer », « the guy who went on a killing spree », donc qu'on entend souvent, une phrase qu'on entend souvent au bulletin de nouvelles américaines, on pourrait traduire ça par une virée meurtrière.
Oui.
Ces virées meurtrières-là sont souvent l'apanage des gens qui sont en psychose, qui ne suivent pas des traitements, qui ont des graves problèmes de santé mentale. Donc, de là où on peut comparer les deux types de meurtriers, Shaik et Carl Girouard à Québec. Voilà.
Très intéressant et j'imagine qu'on va encore continuer à avoir beaucoup d'informations sur ce qui a pu se passer pour en arriver là. Sur une autre, ouais. Un autre ordre d'idée, la Sûreté du Québec mène actuellement une enquête parce qu'il y aurait eu des agressions sexuelles et des possibles cas d'intoxication au Festiplage de Cap-Espoir en Gaspésie la semaine dernière.
Ouais.
C'est nébuleux comme histoire.
Oui, ça nous vient de publications qui circulent sur les réseaux sociaux qui dénoncent des gestes qui auraient été commis au Festiplage. Et il y a plusieurs allégations, mais parmi celles-ci, il y a probablement des gens qui, en tout cas, selon les prétentions, se sont livrés à ce qu'on appelle la piqûre challenge. Ça nous est importé d'Europe beaucoup, mais en fait, c'est quoi la piqûre challenge? Moi, ça me fait capoter, cette affaire-là. Ça consiste à administrer du GHB à l'aide d'une seringue à l'insu des gens. Donc, tu vas piquer quelqu'un avec du GHB. Franchement, Il y a une jeune femme qui dit « J'en ai été victime, j'ai été droguée le mercredi, la première soirée donc du festival, c'est ce que je comprends. » Et elle était la quatrième à partir en ambulance. Quatre femmes qui ont quitté en ambulance. Le CALAC de la Gaspésie a confirmé, et c'est une information qui venait du Devoir, ça avoir pris en charge plusieurs victimes, sauf que les autorités, elles, ne confirment pas. Mais moi, ça m'affole, ces trucs-là, parce que j'ai des enfants, puis parce que si on est rendu que dans des festivals, on pique c'est les piqué. Filles avec des seringues, aïe aïe,
On connaissait le modus operandi de ceux qui mettaient de la drogue dans un verre, puis là, il y avait toutes campagnes de surveille ton verre quand t'es dans un bar ou dans un événement. Mais là, quand une seringue peut te piquer un peu n'importe où, quand tu te retrouves dans un événement, là, ça commence à être plus difficile de se protéger.
Disons. Alors, c'est pour ça que je suis renversé par cette nouvelle-là. Là, on n'est plus dans cette... Même que la drogue, on s'entend que le GHB dans les verres, c'est pas mieux. Ça reste la drogue, puis ça reste une drogue qui est absorbée sans ton consentement. Mais moi, je trouve que de s'attaquer, parce que c'est une attaque aussi, là. On peut considérer la piqûre comme aussi une voie de fait. Là. On peut considérer ça comme ça. Je trouve que ça ajoute l'insulte à la blessure, disons.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a également cette histoire de l'adolescent blessé lors d'une poursuite policière.
Oui, ça nous rappelle des bien mauvais souvenirs. Il y a un ado de 15 ans qui a été blessé à Laval lors d'une poursuite policière. Tu te rappelles le jeune homme qui a été, le bambin, en fait, qui a été tué à Longueuil d'une poursuite policière de l'UPAC. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, c'est arrivé à minuit. C'est deux patrouilleurs de Laval qui tentent d'intercepter un véhicule pour une infraction au code de sécurité routière dans Chemédé. Et puis là, le gars veut pas s'arrêter. Donc, il y a une poursuite qui s'enclenche, bien qu'officiellement, dans les corps de police, on dit qu'on fait jamais de poursuite. C'est pas vrai. Et là, au coin de Saint-Martin-Ouest et du Couvent, il y a un jeune homme en mobylette qui a été percuté par l'auto. 15 ans. Gravement blessé. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles sur son état de santé.
Et j'imagine qu'il va y avoir des enquêtes pour savoir le contexte dans lequel les policiers ont enclenché cette poursuite. Le BEI va enquêter là-dessus. Félix Séguin, je te souhaite un excellent week-end et j'ai hâte qu'on se retrouve lundi pour d'autres actualités judiciaires.
Eh bien, moi aussi. Bon week-end à toi.
Au revoir.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube
Radio. C'était donc tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, de beau temps, du soleil et beaucoup d'activités familiales et avec vos amis. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Moranville-Ouellet pour la prochaine heure et je vous dis à lundi.
Cube Radio.